Bonsoir à tous. Ouh là, ça marche bien. Vous allez bien? Vous êtes bien installés? J'hésite à mettre ma veste ou à pas la mettre. Alors, je fais quoi dans ce cas-là? J'espère que, le feu du Saint-Esprit en moi va me mettre de la chaleur et qu'à la fin, j'aurai chaud. Peut-être que vous aurez froid, alors on verra. Il y a toujours un peu des courants ici, mais voilà. Pour l'instant, ça va. Voilà. Alors ce soir, on va lire un texte biblique célèbre de l'Ancien Testament. Alors ces textes bibliques célèbres, hein, comment on les aborde? On peut dire que c'est des textes qu'on connaît, on a fait le tour. Ou on peut dire, mais s'ils sont célèbres, c'est qu'il y a une raison qu'ils soient célèbres, c'est qu'il y a quelque chose de puissant. Et j'espère que c'est sous cet angle-là que vous allez aussi accueillir ce... On peut lancer le PowerPoint. Là, je vais essayer avec la... Voilà. Donc, vous avez déjà un petit indice, le début du titre, « Si mon peuple ». Je pense que certains y voient tout de suite le verset qui va arriver. Je regarde Pierre-Claude qui est en train de chercher le... Peut-être là. Il l'a mentionné à plusieurs reprises, ce texte de « Si mon peuple ». La première fois, lors de notre journée stratégique en septembre, il l'a dit aussi dans le cadre du conseil récemment, et ça a retenu mon attention. Je me suis dit, ben, si Pierre-Claude en particulier est sensible à ce texte, c'est qu'il a certainement quelque chose à nous dire, pas seulement voilà, entre nous, ou bien il l'avait dit quand on s'était retrouvés dans la salle, mais peut-être aussi plus généralement à nous tous ce soir. Je dois avouer que j'avais un a priori sur ce passage. Il entrait, à mon avis, dans une forme de théologie, on parle de rétributive ou de rétribution. Dieu fait si tu fais. Si tu ne fais pas, il ne fait pas. Donc c'est un peu du Dieu donnant. Donc ce qui avait un peu quelque chose contraire un peu à l'amour de Dieu, à la grâce qui se donne, que Dieu donne gratuitement. Il ne dit pas « je te donne ma grâce ». À condition que, bien sûr, il y a accepté la grâce. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-Marc. C'est une forme de condition, mais ce n'est pas du donnant-donnant. Mais mon regard, il a changé. Et ce que je voyais plutôt, un peu cette théologie de la rétribution, je le vois aujourd'hui comme une magnifique promesse de Dieu qui est disponible pour toutes celles et ceux qui veulent s'approcher de Dieu sans rien mériter. Il y a tellement de choses qu'on cherche à mériter et le monde ne nous aide pas. Le monde est plutôt à nous dire, si tu fais ça, si tu as ces conditions à ça, alors tu pourras. Si tu ne fais pas, alors la porte est fermée. Donc ce côté-là nous marque beaucoup. On a un monde qui fonctionne quand même passablement comme ça. Alors nous allons lire ce verset tout d'abord. C'est dans la version second 21. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc dans 2 Chroniques 7, les versets 14. Ce texte, il se trouve dans les 2 Chroniques. Donc quelques mots sur ces 2 Chroniques. C'est un livre de la Bible, de l'Ancien Testament. L'auteur, la Bible ne dit pas qui c'est qu'il a écrit, on suppose que c'est Esdras qui l'a écrit. Ça a été écrit vers 450 à 400 avant Jésus-Christ, après le retour des Juifs de l'exil à Babylone. Donc vous savez, ce retour a eu lieu suite à ce décret de Cyrus, on parle des fois encore aujourd'hui de Cyrus. Vous savez ce qu'il a fait Cyrus? Mais comment il l'a sauvé? Donc il a fait un décret. Les présidents, aujourd'hui, ils ont le pouvoir de faire des décrets. On en connaît. Certains l'utilisent beaucoup, ce pouvoir de faire des décrets. Il a fait un décret, Cyrus, il a dit, dorénavant, les peuples juifs peuvent retourner en Israël. Et en plus, il a dit, ils pourront reconstruire leur temple. Donc c'était fort comme décision. Et c'est ça qui a permis finalement le début du retour de l'exil en 538. Donc ça a été écrit, ces chroniques, après. Une particularité de ce livre des 2 Chroniques, au départ, c'était, on parle de 2 Chroniques, ça ne formait qu'un seul livre avec la première épique de Chroniques. Et puis, ça couvre la même époque que les livres bien connus de second livre de Samuel, premier livre des rois, second livre des rois. Donc, depuis, en gros, la mort de David jusqu'au roi, son fils, roi Salomon, les rois qui ont suivi. C'est toute cette période-là qui est couverte par ce livre de 2 Chroniques. Qu'est-ce qu'il y a avant ce passage? On a donc 2 Chroniques 7. Je résume, accession de Salomon au trône, donc fils de David, préparation de la construction du temple, construction du premier temple, magnifique, gigantesque, déplacement de l'arche, cette arche qui se déplaçait dans le désert, mobile, on la met dans le temple, ça devient un lieu immobile pour l'arche, inauguration du temple, prière de Salomon qui demande à Dieu, au verset 40 du chapitre 6, « Désormais, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. » La prière de Salomon. Et puis nous lisons encore au des premiers versets du chapitre 7 que la gloire de Dieu remplit le temple. Et j'aimerais relire ce verset, mais avec ce qui vient juste avant et juste après. Je trouve des fois intéressant, parce que surtout ce verset-là, on le prend des fois un peu comme ça. On en fait des chants, on le cite, etc. Mais qu'est-ce qui est dit juste avant et juste après? Donc, on relit ce verset, mais avec un tout petit peu plus d'emphase sur ce qui est écrit avant et après. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Si je résumais ça, ce verset bien connu qu'on a lu est précédé d'un temps glorieux, d'un exaucement de prière. Et il est suivi d'une promesse que Dieu aura toujours ses yeux et ses oreilles ouvertes sur la prière qui se fera à cet endroit. De plus, un Dieu, il a non seulement exaucé la demande, c'est Salomon qui a demandé qu'un temple soit construit. Ce n'était pas le plan initial de Dieu, mais Salomon lui a demandé. Et Dieu l'a exaucé. Mais il a choisi Dieu de faire de cette maison son lieu de résidence éternelle. Et entre ces deux parties, il y a un peu l'Éternel qui a averti Salomon, qui lui dit qu'il y aura des temps difficiles, qu'il aura permis. Et en même temps, il explique ce qu'il faut faire, comment se comporter pour faire face à ces temps difficiles. Et c'est ce que nous allons voir. Que nous dit ce texte pour nous ici ce soir? Alors tout d'abord, il y a un destinataire, mon peuple. Un destinataire. Et bien sûr, ici, c'est Israël, surtout la partie d'Israël de Juda qui est concernée. Donc c'est à eux qu'est adressé ce texte en premier. Et pour nous aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est la société? C'est qui ce peuple? J'ai envie de dire, on pense tout de suite à l'Église. Hein? Ok, ben c'est nous, c'est l'Église et c'est juste. Mais si ce peuple, en tout cas potentiel, était aussi cette population autour de nous, ici qui entoure ce temple de Versoix dans les communes avoisinantes ici, je le pense parce que finalement toute la population fait partie de la création de Dieu. Et Dieu souhaite que cette création reconnaisse son Créateur. On l'a chanté ce soir qu'il est créature. Et retrouve le chemin vers une relation avec son Dieu, que tout le monde devienne ce peuple de Dieu. Donc, on peut le voir des deux côtés. Pour moi, on peut le voir aussi bien pour nous, l'Église aujourd'hui, avec un grand E, dont nous, la paroisse de Versoix, que l'Église au sens large, qui peut encore venir plus large qu'aujourd'hui. Le peuple de Dieu ici. Donc un destinataire qui porte mon nom. Donc, on l'a chanté fort, c'est Jésus hein, qui est au-dessus de tout nom. L'Église porte le nom. Nous portons le nom de Dieu, nous portons en tant qu'Église, nous sommes sous l'autorité que Dieu a déléguée à Jésus sur son Église. Et ça signifie quoi, porter son nom hein, c'est notre identité. Quand on porte, tu t'appelles Allenbach, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tu portes le nom, tu t'appelles Meyer. C'est une généalogie, c'est ce qu'on ne peut pas changer. Alors on peut, quand on se marie, on peut changer de nom, ce n'est pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous suit, le nom. Le prénom, c'est plus, voilà, mais le nom nous suit, on ne peut pas changer. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dans le livre, dans le livre d'état civil, on ne peut pas l'effacer. Et ici, ce qui est traduit par « porter », c'est encore plus fort que simplement quelque chose qui est écrit, qui est figé. Mais ça signifie littéralement faire appel à, proclamer. Certains versets disent même crier. Crier le nom de Dieu. On parle des fois d'invoquer dans certaines traductions, celui qui invoque mon nom. Et proclamer, invoquer le nom de Jésus sur notre Église, c'est dire que nous sommes Église, nous sommes ce corps, nous sommes ses enfants, nous ne pouvons pas le changer. Et personne ne peut le changer car nous appartenons à Dieu. C'est ce que nous disons aussi dans nos chants, nous sommes enfants de Dieu. Personne ne pourra jamais le changer. Parfois, il est important de le proclamer haut et fort. Alors, je ne suis pas forcément une personne qui répète 10 fois les mêmes choses pour que je commence à le comprendre, mais parfois, c'est important de le proclamer et de le redire intentionnellement, pour se le rappeler déjà nous, mais aussi, je crois, en signe de reconnaissance que l'Église est marquée de ce sceau indélébile de Dieu. Et je pense que cette proclamation est aussi destinée à être entendue par le monde invisible. Il y a les anges ce soir. J'en ai pas vu. Je ne sais pas si quelqu'un a vu des anges ce soir. Quelqu'un en a vu ? On a chanté les anges ensemble. Dieu est saint. Alors certains les voient parfois. Mais je pense vraiment qu'on est entouré d'une nuée d'anges qui ont loué avec nous ce soir, qui sont jour et nuit au pied de ce trône, qui disent « Saint est le Seigneur ». Donc c'est fort, c'est puissant. Donc il y a ce monde invisible-là, mais aussi le monde de Satan qui veut parfois nous faire croire que Jésus, voilà, le nom de Jésus, mais c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il a encore cette autorité? On relativise les choses. Eh bien non, Jésus a pleine autorité sur son Église. Nous sommes ce peuple, c'est pas rien. Et cette paroisse, son Église avec un grand E, nous sommes même 2 églises dans ce lieu, lui appartiennent. Et après, nous arrivons à cette Église hein, qui a le nom, qui porte nos noms, qui a 4 comportements. C'est un peu le passage obligé, finalement, hein, le passage obligé universel pour être en relation avec Dieu. Il n'y a pas de condition, relation avec Dieu, tout le monde peut l'avoir. Il y a juste une condition, c'est de le reconnaître et de l'accepter. C'est peut-être ça, des fois, le plus difficile. Et on parle ici de s'humilier, prier, chercher, renoncer. Alors, s'humilier, hein, se mettre au niveau d'un humain, ça c'est, voilà, et on n'est pas Dieu, on est humain. Reconnaissant qu'on est pécheur, séparé de Dieu par cette nature qu'on a héritée de la chute, et que sans Dieu, sans sa grâce, on ne peut pas s'en sortir. Prier. Je rappelle, je l'ai déjà une fois dit, la définition de C.S. Lewis, se tenir devant Dieu. Il a écrit tout un livre, pour la fin, il a dit, voilà, la prière d'intercession, et la prière d'adoration, et la prière de... Il y a plein de types de prières, mais si on veut la ramener, c'est être, se tenir devant Dieu. Ce peuple dont le nom est sous le nom de Dieu, sous la puissance de Dieu, il se tient devant Dieu pour lui parler, pour être en relation avec lui, pour intercéder, pour louer. Et nous parle de chercher. C'est intéressant, la prière est suivie d'une recherche. Mais quelle recherche? On cherche quoi? On cherche une solution? On cherche un conseil auprès de Dieu? On cherche à recevoir une vision de Dieu? On cherche une inspiration? Tout ça, c'est juste. Hein, mais ce qui est intéressant ici, c'est que chercher... Pardon? Sa face. Chercher Dieu. C'est chercher Dieu avant de chercher une solution, c'est chercher Dieu, sa présence. Chercher à le voir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Des versets bien connus, hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. Oui, aussi ce verset un peu plus loin, aussi dans Matthieu 7, verset 7. Cherchez et vous trouverez. Cherchez. Et cette recherche est d'autant plus forte et puissante s'il y a en nous le désir de trouver. Quand on cherche quelque chose et qu'on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On continue de chercher dans la prière. On continue de chercher. Et là, c'est vraiment... c'est ce qu'il y a notre... Aujourd'hui, c'est vrai que chercher ou trouver des choses, des informations, c'est assez facile. C'est plutôt chercher, mais trier aussi des fois de tout ce qu'on trouve. Le vrai du faux. On a cru un échange dans le groupe d'église aujourd'hui. C'est assez intéressant avec du... Là, trier le vrai du faux. Hein? ChatGPT nous a un peu aidé là. Merci Pierre-Claude, allez voir. Tout à coup, il y avait une citation qui était juste... Vous l'avez suivi là un peu le groupe là? Il y avait une situation où je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Et notre ami Philippe Couleru qui nous dit qu'un imam reconnaissait tout ce qu'Israël faisait, était positif, etc. Puis il y avait un côté, waouh ! Ouais, voilà, il a visité. Donc il y avait quelque chose de juste merveilleux. Voilà, il était sur le point de reconnaître Jésus quasiment. Il ne l'a peut-être pas encore fait, mais. Et puis, alors, ce qu'on a, voilà, en cherchant un peu, Pierre-Claude nous a dit, mais attention, en cherchant avec ChatGPT, nous a dit que c'est plutôt quelque chose qui a été inventé et qu'il ne faut pas trop se réjouir, finalement. Alors voilà, là, c'est aussi trier le vrai du faux, c'est peut-être aujourd'hui la difficulté, hein, trier le vrai du faux. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on pense être vraies, et tellement de choses qu'on est convaincu que c'est vrai, et peut-être que ce n'est pas si vrai que ça. Donc ça, c'est aujourd'hui peut-être aussi cette chercher. Alors chercher Dieu dans la prière, ça peut... quand je dis chercher Dieu, ben, c'est dans la prière. Mais ça veut aussi dire chercher concrètement des choses, hein, puis d'aller sur Internet chercher des choses, etc. Donc on a besoin ici de sa parole et de son Esprit Saint qui nous donne le discernement pour savoir aussi qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qui est quelque chose que Dieu veut me montrer à travers ça, qu'est-ce qu'il veut me dire. Et après, le dernier point, c'est renoncer à ses mauvaises voies. C'est quoi ces mauvaises voies? Hein, c'est tout ce que l'homme fait qui l'éloigne de Dieu. Le mot traduit ici par renoncer a la signification de retourner ou de revenir. Dans d'autres passages, on parle de retourner, revenir. Donc au-delà de comportements hein, répréhensibles découlant des 10 commandements qu'on connaît, auxquels il faut renoncer, mais c'est renoncer, c'est retourner vers Dieu. Revenir sur le chemin qu'on a quitté et retrouver ce chemin qu'on est en train de chercher. Des fois, on est peut-être un peu perdu. Perdu, il faut retrouver le chemin. Et c'est le chemin vers Dieu. On a tendance à garder ces 4 comportements hein, là, plutôt de manière personnelle. Et c'est juste, hein, car la foi est avant tout quelque chose de personnel, en tout cas dans nos églises aussi évangéliques, c'est important qu'on croit personnellement à Dieu. Mais rappelons-nous que cette prophétie ici que Dieu a donnée à Salomon, c'est pour un peuple, hein. C'est une communauté. Et si on prend un peu les 2 communautés que j'ai dit au début, l'Église, donc c'est une invitation à rester humble. Humble, ça veut aussi dire rester soumis à Dieu. Une invitation à prier ensemble. On a encore parlé dimanche passé avec Philippe Anchaud. Il regrettait que les temps de prière communautaires avaient été abandonnés, je crois. Et puis après, je me suis dit, mais nous, on prie un dimanche par mois. Alors on peut déjà se dire, c'est peut-être beaucoup. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est important? Au-delà des prières qui se font individuelles, des prières qui se font dans des groupes de maisons, de se dire, à un moment donné, ce peuple, et nous sommes un peuple ici, dans cette église, prie ensemble, cherche ensemble Dieu lorsque nous nous réunissons. Renoncer à des mauvais chemins qui nous éloigneraient du plan de Dieu pour vers soi. Est-ce qu'on est sur un mauvais chemin? Il ne me semble pas, mais c'est aussi là qu'on peut chercher ensemble la voie de Dieu pour savoir sur quel chemin on est. Puis si on prend cet aspect communautaire au monde qui nous entoure, ben c'est une invitation au monde à accepter le message du salut qui comporte finalement ces quatre comportements, hein, de reconnaître dans l'humilité, de retourner à Dieu, renoncer à ses voies, de retourner vers Dieu dans la prière. Et c'est ce que nous essayons de partager, ce que nous faisons avec des actions actuellement, dans ces actions du groupe missionnel vers soi. Il y a le groupe d'hommes aussi qui partagent aussi ce qu'ils vivent avec Dieu, avec des personnes qui ne connaissent pas ou pas encore Dieu. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont venir, des choses qui sont encore en germe, qu'on ne voit ou qu'on ne voit pas encore. Et ces comportements, finalement, ils conduisent à connecter le ciel ou les cieux avec la terre. Et c'est la promesse qui en découle. C'est la promesse qui en découle. Dieu écoute, Dieu pardonne et Dieu guérit. Dieu écoute. Il écoute qui ? Ben, il nous écoute, nous ses enfants, mais aussi sa création, ces personnes qui ne sont pas encore en relation avec lui. Je crois sincèrement que Dieu attire déjà des gens à lui. On parle d'une grâce prévenante, d'une grâce qui est là déjà avant qu'on découvre la grâce. Dieu attire déjà des personnes qui ne le connaissent pas encore à devenir ses enfants, à devenir ses fils et ses filles. Et Dieu nous écoute, et Dieu n'est pas sourd. Oh non, je ne crois pas qu'il est sourd. Hein. C'est pour ça qu'on peut le prier de différentes manières, en silence, en criant, en parlant très fort. J'ai un ami dans le collège ministériel, il prie toujours très fort. Alors, au début, ça me gênait. Puis une fois, j'ai dit, écoute, ça me gêne un peu, des fois je trouve que tu pries fort. J'ai dit, voilà, on se dit les choses, quoi. Ah, il prie toujours fort, mais peut-être un petit peu moins des fois. Mais il m'a dit, j'ai appris à prier comme ça. J'étais avec deux amis, là, un Espagnol et puis un Brésilien, je crois. Quand on priait fort. J'ai dit, ben voilà. D'une part, j'avais l'explication. Et d'autre part, c'était une manière de prier. Il n'y a pas de jugement. Voilà, ça peut être un peu choqué. Surtout, s'il est plutôt dans un mode prière silencieuse, peut-être. Hein. Mais voilà, Dieu, on peut lui parler. Mais je sais qu'il n'est pas sourd. En tout cas, je ne crois pas. Il écoute. Et ce que j'ai envie de dire, ben, qu'on prie comme on a l'habitude de prier. Certains prient de manière circulaire. Ben, ils sont aussi comme ça en général quand ils parlent avec vous. Pour dire une chose, ils ont besoin de 10 minutes pour expliquer, etc. Voilà. Et puis à la fin, ils arrivent au point. Puis d'autres, c'est direct au point. Mais avec Dieu aussi, j'ai envie de dire, priez comme vous parlez avec les gens, priez avec Dieu. Parce que Dieu, il sait comment on est finalement. Et puis, si on essaie d'avoir une prière spéciale, et je pense un peu à ces pharisiens hein, qui se mettaient, voilà, ils prennent des positions, ils ont appris des prières, etc. Voilà, ça risque des fois d'avoir d'avoir un décalage peut-être entre la manière dont on parle à quelqu'un et dont on parle à Dieu. Je pense qu'on peut parler à Dieu de manière très comme on est, dans un grand respect de qui il est, sans forcément prendre une manière spéciale de lui parler dans la prière. Et Dieu écoute, et je pense vraiment qu'il peut entendre des choses qu'on n'ose peut-être dire à personne. Peut-être des choses qu'on dit à Dieu qu'on n'ose dire à personne. Des choses intimes, des choses personnelles, hein, seul dans sa chambre, hein, dans la forêt, dans sa voiture, où vous voulez, Dieu nous entend. Il nous a dit qu'il écoute du haut du ciel. Alors, j'imaginais, là, il y a, voilà, en moins 500, Dieu écoute du haut du ciel. Avec la nouvelle alliance, Dieu est descendu sur terre avec Jésus, et je pense pour nous, c'est un peu plus facile, peut-être, de comprendre que Dieu nous écoute du haut du ciel, parce qu'il est descendu. Il a vécu sur terre, il était proche de ses disciples. Cette distance nous paraît un peu moins grande peut-être qu'au temps de l'Ancien Testament. Mais Dieu reste Dieu, le tout différent, le Dieu très loin, d'un côté très loin qui est dans sa création, mais bien au-delà de sa création. Dans certaines traductions, et c'est là que pour moi, il y a une révélation par rapport à cette appréhension un petit peu que je disais au début sur ce passage, c'est le mot « exaucer » qui est utilisé. Vous avez vu ici, il n'est pas parlé d'exaucer. Il est parlé que Dieu écoute. Et pour moi, en tout cas, je fais une assez grande différence entre Dieu qui écoute et Dieu qui exauce. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a aussi des fois donné un peu, voilà, Dieu qui exauce. Donc, on proclame Dieu exauce, et si on fait tout ce qu'il y a avant, il va exaucer. Mais si on ne fait pas tout ce qu'il y a avant, il n'exaucera pas. Donc, c'est un petit peu du donnant, donnant. Je fais, il m'exauce, je ne fais pas. Fâché contre moi, je prends un peu l'extrême, hein. Il ne m'exauce pas. Autre traduction que Dieu ici écoute, c'est « Je serai attentif ». Nouvelle Français courant. Dieu est attentif. Ou bien dans la Nouvelle Bible Second, « Je l'entendrai depuis le ciel ». Donc il y a écouter, entendre, être attentif. C'est ce fameux mot « shama » en hébreu qui veut dire aussi bien écouter, entendre, mais qui peut aussi dire obéir ou apprendre. Donc c'est important de se rappeler que Dieu écoute toujours, qu'il est attentif. Dans un monde, on parle beaucoup du trouble de l'attention. Il n'est pas touché par le TDAH, Dieu. Il est attentif et c'est une qualité. Moi, je trouve, ouais, quand on parle avec quelqu'un qui est attentif quand on lui parle. Et Dieu, il est attentif. Alors qu'il peut, j'ai envie de dire, il pourrait être distrait par plein d'autres choses. Mais il ne nous exauce pas toujours. En tout cas, pas de la manière dont on s'attend à être exaucé. Il peut nous exaucer, hein, il l'a fait avec Salomon. Salomon lui a demandé de pouvoir construire un temple. Dieu l'a exaucé, il a dit « Ok ». Mais il ne doit pas nous exaucer. Car je pense qu'aucun exaucement n'est un mérite, mais uniquement un cadeau immérité. On parlait dimanche passé avec Philippe Anchaud que Dieu a sauvé Pierre de la prison, miracle. Et Jacques, à la même époque, il est resté en prison, il a été exécuté. Exaucement un, pas exaucement d'autre. Dieu a écouté, je pense, les prières de Pierre dans la prison. Il a écouté les prières de Jacques. Ça, c'est sûr. Mais il n'a pas exaucé, en tout cas pas de la même manière, les deux personnes. Dieu guérit. Et c'est la dernière conséquence, ça, le pardon, hein, ça ouvre la porte à la guérison de ce qui a été blessé. Et je vois la guérison avant tout comme un travail de restauration, hein, de ce qui a été tordu, biaisé par le péché et tout le mal qui en découle. Et Dieu fait une œuvre de restauration dans nos vies. Parfois, ça passe par du miraculeux. Et moi, je définis miraculeux ce qui est impossible selon la compréhension humaine, inexpliqué, inexplicable, mais souvent pas. En tout cas, pas avec nos têtes bien limitées qui comprennent. On se dit, ben là, il n'y a pas eu de miraculeux. Mais il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup plus miraculeuses que ce qu'on s'imagine. Mais notre compréhension est limitée. Mais Dieu agit toujours pour nous rendre conformes à ce que Dieu a voulu pour chacun de nous quand il nous a créés. J'ai dit, le péché, le mal a comme biaisé des choses en nous, des choses que Dieu a placées en nous, des dons, des qualités, des caractères, et il veut rétablir ça par toute son œuvre de restauration, et ça prend du temps. Et ici, comme pour les comportements, on a tendance aussi à s'approprier ces promesses, mais rappelons-nous aussi que ces promesses sont pour un peuple. Et si je prends à notre Église, quand on se met deux ou trois ou tous ensemble devant Dieu, il nous écoute, il est attentif. Il n'écoute pas seulement ceux qui prient à haute voix. Je parle une fois à quelqu'un, il y a des petits groupes, je ne prie pas moi, mais je dis, il n'y a pas de problème, tu ne pries pas. Vous êtes ensemble, vous priez en groupe. Il écoute en tant que corps, il nous pardonne. C'est un pardon communautaire, alors c'est peut-être plus rare. Ça peut arriver parfois qu'une communauté a besoin d'ensemble demander pardon. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a vécu, il peut y avoir parfois des pardons aussi communautaires qui sont à demander. Si on voit qu'on s'est éloigné aussi de Dieu. Et il restaure une œuvre de transformation, changement de culture, des relations basées sur l'honneur réciproque. On en parle actuellement dans les groupes sur les 100 jours de culture d'honneur. Changement de culture, changement de façon de voir les choses. C'est tout un travail de groupe, de communauté. Et puis au monde qui nous entoure, c'est le merveilleux message de l'Évangile qui impacte notre société, qui devient un peuple qui vit selon les valeurs du royaume de Dieu. Je suis en train de lire un livre de Sébastien Fatt, c'est un sociologue français qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le nouveau pouvoir évangélique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je trouve bien, un sociologue qui explique un peu toute l'évolution de l'évangélisme dans le monde et comment ça impacte la société. Et il prend un exemple en Afrique, par exemple. J'ai été touché de ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas un missionnaire, ce n'est pas un pasteur qui ont des fois tendance à enjoliver tout ce qui va bien et puis à pas trop dire ce qui ne va pas. Lui, il dit un peu cash en tant que sociologue, mais il a vécu dans les églises, notamment une au Burkina Faso, qui est passée d'un pays où il y avait quelques pourcents d'évangéliques, aujourd'hui ils sont 25% à peu près. Et ils sont reconnus comme étant vraiment partie de la société. Ils ont des bons contacts avec le président actuel aussi. Mais le président est un peu à dire, ok, je vous reconnais, je crois qu'il est musulman, sauf erreur, Traoré, je vous reconnais, mais je veux voir concrètement ce que vous faites dans la société, quoi. Je veux que vous engagiez. Voilà. Et puis c'est ce qu'ils font, donc ils font des écoles, ils font des programmes de lutte contre le djihadisme dans le Sahel, des choses comme ça, donc c'est du concret, l'Église s'implique. Et je me dis, ben voilà, ça c'est le royaume de Dieu qui vient. Et en Afrique en particulier, où on sait qu'aujourd'hui, hein, on estime presque une personne sur deux est chrétienne en Afrique. Voilà comment l'impact qu'a ça dans notre société. Hein, parfois, cet impact est très tangible, et peut-être plus autour de nous, dans d'autres pays, parfois moins. Parfois, on est plus éloigné de ça, de comment le royaume de Dieu transforme la société. Quand on voit des fois aujourd'hui ce qui se passe avec la guerre en Iran et tout, on a l'impression qu'on est des fois assez loin, ou même très loin de ce royaume qui vient. Mais je crois qu'il vient. Il viendra quand l'Église aussi, et quand l'Église sera aussi, sera cette Église qui sera prête aussi à devenir cette Église que Dieu a toujours voulu. Comment ça se passera concrètement, c'est assez mystérieux quand même, mais Jésus veut revenir pour établir son règne. Et dans cette attente, c'est l'Église qui porte cette espérance d'un Dieu qui écoute, qui pardonne et qui guérit. En conclusion, donc, ce « si alors » n'est pas conditionnel, en tout cas pas conditionnel dans le sens de méritoire, mais c'est une promesse imméritée et universelle, c'est pour tous. Elle est à disposition de chaque personne qui passe par l'humiliation, qui s'humilie, la reconnaissance qu'il ou elle est pécheur, son besoin de grâce et notamment du pardon pour être en relation avec Dieu. Et pour accueillir cette promesse, il y a besoin d'une révélation. Nous, ça nous paraît un peu logique, ça, finalement. On a accueilli la grâce, c'est logique, il faut l'accueillir, simplement, et entrer dans la relation. Mais ce logique est peut-être pas si logique que ça pour les gens qui sont autour de nous. C'est la logique du ciel qui est évidente pour nous, mais qui n'est pas, ou pas encore, pour beaucoup de monde dans notre société ici. Mais nous savons que Dieu agit. Et en tant qu'Église, donc ce peuple de Dieu, reconnaissons en proclamant haut et fort que Dieu est maître de son Église, qui lui appartient. Et si nous passons par des temps difficiles, c'est peut-être pour nous rappeler qu'il est important de rester humble, de continuer de prier, de continuer de le chercher, convaincu qu'il nous écoute toujours et qu'il nous pardonne, son pardon est donné, et qu'il veut insuffler aussi toujours plus les valeurs de son royaume parmi nous, ce qu'on est en train de vivre, notamment aussi dans les 100 jours pour le développement de la culture d'honneur. Et j'aimerais terminer ce message en écoutant un chant qui reprend ces paroles-là, un chant du Jurassic Praise Band, « Si mon peuple ». Et alors, je vous invite pas à chanter avec, mais simplement à l'écouter. Il y a la musique et les paroles qui sont aussi là. Et puis, qu'en réécoutant ces paroles de ce verset, en écoutant la musique, cette parole puisse faire son chemin aussi dans nos cœurs, en se rappelant que Dieu, que si Dieu n'exauce pas, il écoute toujours. Est-ce qu'on peut mettre le chant, s'il te plaît? Prions ensemble encore. Seigneur, merci pour ton écoute qui est parfaite. Tu écoutes du haut du ciel nos prières. Merci pour cette grâce qui coule ce soir parmi nous. Merci pour cette grâce qui ne se mérite pas, qui est là, disponible pour nous, Seigneur. Que ton nom soit sur notre Église, Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous appartenons à toi, nous sommes ton peuple, que tu sauves, que tu guéris, que tu pardonnes, que tu restaures. Amen.